Code éthique par la PMRI Dominique Philippe, le 12 décembre 2001 à Saint-Judas.
Nous avions vu la dernière fois que le premier acte de l'éthique religieuse, c'est l'adoration. Revendiquons, je dis bien revendiquons, toujours que l'adoration est une attitude humaine, non pas révélée. C'est la première attitude humaine. Et supprimer l'adoration de la personne humaine, c'est donc la décapiter, couper sa tête. Il n'y a rien de plus grand au point de vue humain, je parle du point de vue humain, c'est-à-dire au point de vue philosophique. Il n'y a rien de plus grand que l'adoration et la contemplation. Et l'adoration au point de vue humain conduit à la contemplation. Il ne peut pas y avoir de contemplation humaine sans adoration. Et ça, c'est capital pour nous. De maintenir ce patrimoine humain. Le patrimoine le plus profond et qui doit être le plus cher. Parce qu'on est devant une grande montée qui vient du malin, pour ne pas le nommer, qu'on constate, le philosophe constate ça. Il ne voit pas qui fait ça. Mais il peut dire qu'il y a cette grande montée. L'homme n'est plus qu'un commerçant, un super commerçant, parce qu'il établit une intentionnalité économique. On spécule non plus sur l'argent qu'on tient dans les mains, c'est déjà quelque chose qui est dans les mains, mais sur un argent possible. Et c'est vrai, ceux qui sont à la fine pointe du progrès, comme on dit, si on appelle ça progrès, parce que c'est plutôt une dégradation complète de l'humain. Finir comme un grand spéculatif de la monnaie, c'est pas très beau, hein. Enfin, c'est pas très humain. Oui, c'est les vendeurs du temple. Et ça, on peut dire qu'à l'intérieur du catholicisme, il y a les vendeurs du temple. Des gens qui disent chrétiens et qui sont dedans, dans les hautes spéculations d'argent. Les hautes spéculations d'argent, c'est quelque chose de très particulier. Je voyais l'autre jour une épouse ou quelqu'un qui est très lancé dans ces hautes spéculations, Suisse, Paris, Berne, Paris. Elle me disait, mais il n'y a plus d'homme, il n'y a que l'argent. Oui. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas, maman et Dieu. C'est ou Dieu ou maman. Et nous sommes en face de cela aujourd'hui. Je crois que c'est très important. C'est très important de comprendre intellectuellement, hein, faut le comprendre intellectuellement, il faut que ce soit pour nous une évidence. Comprendre intellectuellement que le point de vue, l'éthique religieuse est humaine et que son premier acte qui la caractérise, et si on analysait à fond ce que c'est que l'adoration, on comprendrait ce qu'il y a d'original, de spécial dans cette attitude d'adorer Dieu, adorer le Créateur, adorer celui qui crée mon âme actuellement. C'est un réalisme étonnant. Mon âme est créée par Dieu, je la touche intellectuellement. J'ai un certain toucher de mon âme intellectuelle. Et ceci doit être enveloppé d'un amour pour Dieu. Et ce premier amour pour Dieu se traduit dans l'adoration. Si je n'ai pas ce premier amour pour Dieu, ça m'a toujours beaucoup frappé. L'entretien, alors ça c'est évangélique, mais j'ai le droit philosophiquement de regarder ça du coin d'œil, en sachant très bien que c'est évangélique. Notre Seigneur à la Samaritaine. C'est capital. Nous nous redressons. Quand on vit une vieille culture, on a besoin de se redresser. Parce que les cultures anciennes baissent. On vit du passé. Or, nous vivons chrétiennement, la plupart des chrétiens vivent du passé. Et ils pourraient se redresser par l'adoration. Et les charismatiques louent Dieu, c'est très bien de louer Dieu, mais on peut louer n'importe grand mécène. Tandis qu'on adore Dieu. C'est l'acte typique, spécifique, par où, naturellement, je rejoins Dieu. Je ne le compte pas, je ne le rejoins pas directement. Par l'adoration, il y a un moyen terme. Le moyen terme, c'est que mon âme est créée par Dieu. C'est mon âme qui est le lieu d'adoration, le temple intérieur. C'est mon âme qui adore Dieu. Et je reconnais que Dieu a formé mon âme. Vous voyez, cette lutte qui est très nette au point de vue philosophique, de ne plus parler de l'âme, alors on ne parle plus d'adoration, on ne parle plus de Dieu. Le moyen terme pour faire une civilisation purement animal, je crois, purement animal. Parce que ce qui est spécifique pour l'homme, c'est son âme. Donc si on ne parle plus de l'âme, c'est l'animal qui domine. Et l'animal, on sait très bien comment il domine. Par l'irascible. On est des taureaux et des lions par rapport à l'homme, ou des chacals, encore pire. N'est-ce pas ? Et par rapport à la concupiscence, alors ça, on est des oiseaux farouches. Je me souviens. J'ai eu un exemple dans ma vie qui restera, parce que c'est quelque chose de formidable. je prêchais la retraite aux bénédictins en Algérie. Et on m'avait dit que tout près, il y avait un petit port africain de pêcheurs qui la nuit. Alors, j'avais voulu me lever très tôt pour aller à ce petit port pour l'arrivée du poisson. C'était merveilleux, parce que, alors à ce moment-là, il n'y avait que l'Afrique, il n'y avait personne d'autre, tout. L'Afrique noire. J'ai eu un petit bonhomme de 10 ans qui voyait à blanc, j'étais l'unique. Alors il est venu me trouver, mais avec une gentillesse extraordinaire. Si tu veux, je peux te conduire. Donc il s'est proposé comme me conduire au milieu des étrangers, c'était visible. Il m'a conduit merveilleusement, avec fierté. Et quand ils sont fiers, les petits Sénégalais, ils sont bien. Puis à la fin, il m'a dit, pourquoi tu n'es pas musulman? Parce que le chrétien prépare le musulman. Jésus dit que viendra le paraclet. Il lui dit ça. Et le paraclet, ce sont les musulmans qui sont conduits par le paraclet. Il trouvait ça admirable, ce petit gosse, faisant l'apôtre, ça, devant un missionnaire en blanc. Alors, ce qui a été de plus beau, vraiment de plus beau, de plus étonnant, c'est de voir l'arrivée des pêcheurs. Toutes les femmes étaient là autour pour dépecer le poisson, pour enlever tout l'intérieur du poisson. Et il y avait des vases là. Il y avait à côté ces vases. On avait tous les animaux sauvages qui d'habitude s'enfuient ou volent. Des amis qui étaient là et qui prenaient ses entrailles des poissons et avalaient ça. C'était une gloutonnerie de concupiscence animale affolante. Parce que ces animaux farouches prenaient ça avec délice. Et on pouvait leur taper sur le crâne. Il était là. D'habitude, on a peur d'eux. Il n'y a pas d'eux. Là, il bouffait. C'est vraiment là. Il n'y avait que ce terme-là pour exprimer ça. C'est de voir ce qu'est la concupiscence. Je dirais, elle est un natif. Ces poissons qu'on ramenait directement, il y avait quelque chose extraordinaire. Et ces bêtes sauvages étaient humanisées par leur concupiscence, vous voyez. On pouvait leur toucher sur le crâne. C'était extraordinaire. Je suis resté pendant une heure à voir ça. J'étais le seul Européen, du moins le seul blanc. Et c'était un port à l'état pur de petits pêcheurs venant et tout de suite, les poissons étaient vidés pour repartir après devant à droite et à gauche. Et j'ai compris ce que c'était que la concupiscence. Et comment la concupiscence pouvait prendre tout l'être, ces animaux sauvages, méchants, parce qu'ils avaient de quoi dévorer, et dévorer ça, et ils devenaient doux. je dis pas bon, parce que je crois qu'il restait des animaux sauvages et méchants, mais extraordinairement proches, parce qu'on leur donnait ce qu'ils désiraient. Je crois qu'il faut se rappeler que s'il n'y a plus l'adoration, le point de vue de l'irascible et le point de vue du concupiscible chez l'homme ne pourront pas être rationalisés, ne pourront pas être éduqués, et on aura des tant du côté de l'irascible que du côté du concupiscible des bêtes. C'est dans l'homme où l'animal est plus développé, hein. Faut bien dire ça. C'est un animal qui va très loin. Le concupiscible humain et l'irascible humain peuvent aller très loin. On en a des exemples, hein, autour de nous. Nous le savons. Ça peut aller extrêmement loin. Seule l'adoration permet de dompter cet irascible et ce concupiscible. Seule l'adoration, la vertu de religion qui s'acquiert par l'adoration. Dès que vous adorez, vous acquérez la vertu de religion. Et c'est la seule qui permet de dompter l'irascible et le concupiscible. Le grand moyen d'arrêter les grandes poussées d'irascible que nous pouvons tous connaître, parce qu'on est tous un animal, tu vois, c'est pas injurieux de vous dire que vous avez forcément, et vous l'avez à un plan très développé, naturellement. Votre concupiscible est très développé, naturellement. Et votre irascible est très développé, naturellement. Ce n'est que par le point de vue religieux qu'on peut l'entendre. Alors, on s'attend, puisqu'on supprime le point de vue religieux de l'homme, on s'attend à quelque chose de très beau. C'est-à-dire de terrible. Un développement d'irascible chez des gens qui n'adorent plus, ils se font Dieu. Il n'y a que par l'adoration qu'on accepte de se soumettre à Dieu. Et un concupiscible magistral. Pour lutter contre l'irascible, et le concupiscible, quand il y a des poussées de concupiscible, c'est normal, hein. L'animal grandit, vous savez bien, l'évangile dit que il faut laisser le mauvais grain et le bon grain grandir ensemble, hein. Une parabole comme ça. Et donc, le concupiscible, il grandit bien, il ne perd pas son temps, le concupiscible. Ça, je vous affirme que ces animaux qui étaient sauvages, qui là étaient en compagnie, ne perdaient pas leur temps. Oh là là, c'était... Ils attendaient, bon. Et on pouvait là, vraiment leur caresser. Une humanité qui pousse, qui commence à pousser, il commence à grandir. On a maintenant des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, même dans les pays soi-disant cultivés, jamais entendu parler de Dieu, jamais adoré de leur vie, qui ne savent pas du tout ce que c'est. J'en ai rencontré un, je vous le dis, l'autre jour. Et c'était un garçon très sympathique, humainement très sympathique, et artiste. Et quand je lui parlais de Dieu, c'est la première fois dans sa vie qu'on lui en parlait. Et il avait envie de dire, ça existe. On n'est pas uniquement nous. Alors, une humanité qui se développe sans le développement de l'adoration, de la vertu de religion. La vertu de religion est une vertu radicale. Donc, c'est le fondement. Jésus dit bien, quand on construit une maison, le fondement, c'est capital. Autrement, n'importe quel torrent d'eau, n'importe quel, emportera tout. Or, le fondement de notre vie, c'est la vertu de religion. Et on doit tout le temps l'acquérir. Non. Il ne faut pas dire, j'ai la foi, ça me suffit. Ah, pas du tout. J'ai la foi, il faut d'autant plus que j'acquière cette vertu de religion. Et je l'acquière en adorant. Et une adoration consciente, une véritable adoration. Et je multiplie ces actes d'adoration pendant la journée. Je vous l'ai déjà dit, au point de vue spirituel. Un jeune abbé, Tête Clairvaux, qui était converti, avait été élu abbé, au bout de 6 ans de vie religieuse, il avait compris, intérieurement, charismatiquement, qu'il fallait l'adoration 6 fois par jour, et ne pas se contenter de l'adoration de ceux qui viennent dire leur office. Parce qu'il avait pris cette objection, en disant, Seigneur, mais ils vont quand même tous les jours, 6 fois par jour à l'office, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils fassent des actes d'adoration en plus. Des actes d'adoration pour l'acte d'adoration. Dans un monde qui se paganise, qui n'est plus, qui n'adore plus, il faut lutter contre ces vagues et adorer. Et on n'édifie rien de sérieux sans l'adoration. Et si on a adoré quand on était tout petit, tant mieux. Ça fait partie de la culture chrétienne et d'éducation chrétienne. Mais si on n'a pas eu de milieu chrétien, il faut que nous-mêmes, nous sachions avoir un fondement. L'adoration est le fondement de tout l'édifice chrétien et de toute la construction où on veut se moraliser, c'est-à-dire être conscient de ce qu'on est. Connais-toi toi-même. La connaissance de soi se fait dans l'adoration et par l'adoration. Parce que connaître que Dieu existe d'une façon purement spéculative, pas suffisamment forte. On comprend que Dieu crée actuellement mon âme. Alors là, l'adoration transforme ma vie. Et l'adoration transformant ma vie me donne une base. Et ça, c'est très, très important. Je suis persuadé que on n'insiste pas assez. On insiste beaucoup sur la foi. Je comprends, c'est évident, les vertus cardinales, les vertus théologales, c'est une noblesse divine. Mais philosophiquement, on doit comprendre que l'adoration et la vertu de religion qui s'acquiert par l'adoration, c'est les fondements. Et donc, si le fondement n'est pas bien fait, si le fondement repose sur des traditions qui sont païennes, très vite, l'édifice sera renversé. Pourquoi certains, au bout de quelques années de vie religieuse, on a l'impression que tout disparaît? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'adoration. Et là, nous coopérons. Et Dieu nous demande de coopérer. C'est nous qui devons acquérir la vertu de religion et acquérir cette base, ce fondement très radical. L'adoration se poursuit en un sens de Dieu qui nous protège, qui nous gouverne. Et je vis alors de l'abandon. Il n'y a pas de vertu d'abandon. Je ne crois pas, du moins. Il n'y a pas de vertu d'abandon. C'est un état, l'abandon. Et ça regarde, c'est un fruit de l'adoration. On est abandonné au bon plaisir de Dieu. On sait que le Père, même un point de vue purement humain, que Dieu est mon Père parce qu'il a créé mon âme. Et parce qu'il est Père, il s'occupe de moi. Il s'intéresse à moi. Beaucoup plus que je le pense. Et je veux coopérer à ma manière. Je veux ne pas résister à sa conduite. D'où l'abandon. Et c'est comme le prolongement de l'adoration, l'abandon. C'est vivre dans ce climat de dépendance à l'égard de Dieu et une dépendance aimante. L'adoration, l'abandon, c'est comprendre que nous sommes portés par Dieu, nous sommes dans les mains de Dieu. Et symboliquement, il n'y a rien qui exprime mieux ce que c'est que l'abandon. On est dans les mains de Dieu. Et on se remet dans les mains de Dieu. Et ceci, c'est naturel. Et donc, ça s'acquiert. Nous pouvons tous être des grands adorateurs. Et ça se sent tout de suite, si. Si dans une vie chrétienne, il y a l'adoration. S'il y a cette découverte de soi en Dieu. Parce que Dieu ne quitte jamais ce qu'il a créé, l'âme qu'il a créée. Il ne la quitte pas. Il la garde toujours. Alors, adoration, abandon, remise complète à Dieu. Et aimer le gouvernement de Dieu sur nous. Découvrir progressivement, alors là, ce serait la vertu de prudence, la vertu de prudence religieuse, celui qui me conduit est mon Père. Donc, découvrir le gouvernement paternel de Dieu dans l'abandon. C'est très grand de comprendre que pas un cheveu de notre tête ne tombe sans la permission de Dieu. La providence de Dieu, je dois répondre à cette providence, je dois coopérer avec cette providence, et j'y coopère dans la mesure où je comprends que le Père, Dieu, qui a créé mon âme, qui est le Père de mon âme, s'intéresse à moi. Il y a le fait de comprendre par le fait même cette prudence filiale à l'égard du Père qui me gouverne, qui me conduit. Je sais que je suis conduit par lui. Et je sais que je peux me confier à lui, qu'il s'intéresse à moi. C'est énorme, ça, de savoir que Dieu s'intéresse à moi. Naturellement, ça fait comprendre la grandeur de la nature humaine. Connais-toi toi-même. Et connaître la grandeur de la nature humaine se fait en comprenant la création de l'âme et comprenant que Dieu me gouverne. Dieu me conduit. Dieu m'a créé en ayant pour moi une finalité. La finalité, c'est le gouvernement de Dieu sur moi. Dieu me gouverne en vue de la finalité et me gouverne paternellement. Point de vue surnaturel, je verrai que le Père remet tout son gouvernement à Jésus. Et c'est le bon pasteur. Au point de vue naturel, je ne parlerai pas du bon pasteur. Je ne le dirai pas. Mais au point de vue naturel, on peut dire que Dieu nous gouverne, nous conduit. Et il nous conduit paternellement. Le développement de notre intelligence, le développement de notre cœur, à travers l'adoration et l'abandon. Et il me demande de revenir toujours dans cette attitude d'adoration et d'abandon, tous les jours, et plusieurs fois par jour, pour être vraiment entre ses mains. C'est dans cette lumière-là que je dois saisir l'amour que je peux avoir vis-à-vis du prochain. L'attitude religieuse se développe de façon très particulière sur le prochain, qui a une âme créée par Dieu, une âme semblable à la mienne, créée par Dieu, et pourtant distincte de la mienne. Et donc, il y a un regard très particulier sur cet amour d'amitié. L'amour d'amitié est transformé par la vertu de religion. L'amour d'amitié est transformé par ce regard nouveau que j'ai sur Dieu, Créateur. Je comprends que tout homme est d'abord dépendant de Dieu. Et s'il devient mon ami, il devient dépendant de moi. Mais je sais que Dieu l'aime et qu'il est aimé de Dieu. Et je respecte infiniment cet amour de Dieu pour lui. Et ce lien d'adoration qui peut exister et qui doit exister pour que mon ami devienne véritablement mon ami. La vertu de religion, loin de porter ombrage à l'amitié, va au contraire permettre à l'amitié d'acquérir une profondeur unique. Puisque l'homme que j'aime a son âme créée par Dieu. Et donc, en tant que je l'aime, je le comprends mieux, je le comprends plus profondément. Il y a un sens beaucoup plus profond que je peux acquérir quand je sais que mon ami a son âme créée par Dieu. Et qu'il y a un lien avec Dieu qui est premier. Et mon amitié se construit sur ce lien avec Dieu. Et le fondement de mon amitié, c'est l'adoration, ensemble, commune.